Je laisserai la place à Armand qui nous apportera le message ce matin.
Alors, bonjour à chacun, à chacune. Je remercie Michel de nous avoir ouvert un peu la porte de son existence, de son parcours. Et ce matin, en parallèle, j'aimerais vous parler un peu du parcours de Pierre. Il y a 3 semaines, nous étions envoyés en Italie, à Termoli, au nom de la Fédération de nos Églises, la FRE, pour assister à la dédicace d'une nouvelle chapelle à Termoli. Alors, Termoli a des liens avec Mérin, puisque nos amis saillants, qui ont fait un stage ici avant d'entrer dans le ministère, ont travaillé pendant 2 ans à Termoli. Donc, nous étions en relation assez proche avec Termoli. Nous avons vécu une belle inauguration avec 300 personnes, ce qui est un record dans une province très catholique, le Molise, qui n'a pas été beaucoup évangélisé. Nous étions contents de pouvoir voir cette réalisation dans un pays où les choses ne sont pas faciles. Au retour, on a visité un ou deux lieux connus comme mon casino, qui pour les plus anciens parmi nous se rappellent que c'est un lieu assez terrible. C'est là où les armées alliées avaient été arrêtées pendant plusieurs mois lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est en 1944 qu'enfin le front allemand a cédé à la hauteur de Mont-Cassino. Alors il y a le cimetière, il y a aussi une énorme abbaye. Nous sommes aussi arrêtés à Tivoli, qui est aussi un lieu de villégiature des empereurs, des premiers empereurs. On a retrouvé les noms de Néron, de Hadrien et d'autres, jusqu'à Constantin. C'était leur station de séjour de l'été et ils quittaient Rome. J'ai aussi été impressionné par la place que Pierre a pris dans toute cette histoire, du catholicisme romain. La tradition nous dit que Pierre était à Rome, qu'il est devenu le premier évêque de Rome. J'ai recherché dans l'écriture un peu les traces de tout ça, je ne les ai pas trouvées. Je trouve un Pierre qui écrit depuis Babylone, qui existait encore à l'époque. Et c'est assez mystérieux cette histoire qui s'est développée autour de Pierre, en particulier en Italie. Alors j'ai essayé de refaire le parcours, j'ai repris ma Bible, j'ai reparcouru les évangiles pour essayer de retrouver un peu les traces qui était Pierre, quelles ont été ses interventions majeures. Et pour le faire, je le ferai à l'aide de l'écran, ce sera plus simple, c'est plus facile à suivre. Alors je demanderai à l'équipe au bout des appareils de bien vouloir lancer ces tableaux. Voilà quelques points importants de vie de l'apôtre Paul. Ce sera des flashs, ils seront très très courts, mais ça vous permettra de suivre un peu la vie de cet apôtre. Alors, si on peut envoyer le suivant. Alors, on connaît un peu son origine, donc chacun se rappelle qu'il était pêcheur, et c'est bien sur son lieu de travail qu'il a été appelé, que Jésus a passé, et il a donc quitté son travail de pêcheur. Donc, c'était au bord du lac de Tibériade. Donc c'est en compagnie de son frère André qu'il décide, qu'il lâche ses filets, lâche sa profession et qu'il suit Jésus pendant ces 3 années dont parle le Nouveau Testament. Il y a chaque fois la référence biblique avec. Sa personnalité, on sait un peu quelque chose de Pierre. C'est en tout cas un enthousiaste, un gars très déterminé, parce que souvent on le trouve en tête des actions. C'est souvent lui qui est le premier à s'exprimer, le premier à agir. Mais en même temps, et ça nous rassure, il y a aussi chez lui un aspect de faiblesse. Et nous y reviendrons un petit peu plus tard. Je pense que ça nous met un peu à l'aise, parce qu'on aurait tendance à dire, bon, Pierre, c'est un super-homme, où en sommes-nous, nous, avec nos personnalités? On va découvrir sa place aussi parmi les disciples. Il est souvent en tête, si vous reprenez les textes, il est souvent cité en tête des listes, quand on a la liste des apôtres. En général, ça commence par Pierre. Et puis, son autorité est bien reconnue. Il nous faut retourner, bien sûr, dans le livre des Actes, et on voit très bien que les principaux leaders de l'époque, Jean et Paul, lui reconnaissent son autorité, en particulier lors de cette première conférence des chrétiens, Jérusalem, chapitre 15 des Actes, où quand même des choses importantes sont décidées, puisqu'on ouvrait la porte officiellement, elle était déjà partiellement ouverte, mais officiellement l'Église prenait position en offrant l'Évangile, la bonne nouvelle, à quiconque, aux gentils, comme le texte le dit, mais ça veut dire que l'Évangile était accessible à toutes les populations du monde. Donc, Pierre participe aussi à plusieurs miracles, des événements majeurs dans la vie de Jésus. J'en ai cité deux qui ressortent un petit peu du lot. Il y en a d'autres, ça aurait été trop long de tous les énumérer, mais de nouveau on trouve Pierre qui marche sur les eaux. De nouveau on a cet enthousiasme, cette détermination qui ressort. Et puis à la transfiguration aussi, c'est aussi Pierre qui prend l'initiative, enfin qui propose de construire des tentes, une pour Moïse, une pour Christ, une pour eux, etc. On voit très bien que Pierre joue un rôle assez déterminant. Mais on arrive à une croisée de chemin assez difficile, et quand je parle de l'Italie, je le mets en relation avec ce qui est dit ici. Donc, il y a eu un changement de nom qui va donner une espèce de controverse historique que nous vivons encore aujourd'hui. Son nom a été changé, donc de Céphas, son nom est devenu Pierre. C'est un texte que nous trouvons dans Jean 1, 42 et Marc 3, 16, où Jésus propose un changement de nom. Et ce changement de nom va justement induire toute une difficulté. Donc c'est la source, on a dans ce texte la source de la controverse. Selon Matthieu 16, 13 à 18, et je pense que c'est ça le verset le plus important, Jésus pose la question de son identité. Vous vous souvenez, il s'adresse aux disciples en leur demandant, mais vous, qu'est-ce que vous pensez de moi ? Qui suis-je? Ou qui suis-je à vos yeux? Et là, de nouveau, on a Pierre qui se lance et qui dit, tu es le Christ, le Dieu vivant. Une parole qui fait poids, une parole qui sera importante à travers tous les évangiles. Moi, c'est vrai que je dirais que c'est une confession admirable qui appellera une réponse de Jésus et qui est justement ce texte sur lequel on s'est pas mal battu, sur lequel on discute encore aujourd'hui. La réponse de Jésus après cette confession, c'est « Tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, je te donnerai les clés du royaume, ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux, ce que tu déliras sur la terre sera lié dans les cieux. » La question posée est la suivante. Et je vous la remets aussi à votre réflexion. Cette parole de Jésus s'adresse-t-elle uniquement et littéralement à Pierre, en excluant les autres, ou s'adresse-t-elle à tous les chrétiens dans le sens d'un édifice spirituel composé de pierres vivantes? Et c'est à partir de ce texte que finalement la communauté chrétienne, tout au cours des premiers siècles, s'est séparé en donnant cette place importante à Pierre. C'est bien pour ça que nous avons aujourd'hui un Vatican, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui nous avons Benoît XVI qui est au Portugal ces jours. C'est de là qu'est partie cette compréhension différenciée de cette parole de Jésus. En cherchant dans ma Bible, je retrouve dans l'Épître de Pierre une sorte de réponse qui me fait dire à moi personnellement que ce texte s'adressait à l'ensemble. Ce texte s'adressait à l'ensemble de ce qui était l'embryon de la communauté chrétienne. Et c'est Pierre qui dira ceci, c'est étrange de retrouver dans l'Épître de Pierre la même idée de la pierre. Je vous lis ce texte, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Christ. » Et puis là, c'est une autre citation d'Ésaïe qui annonce des siècles à l'avance la venue de cette pierre qui sera rejetée par les bâtisseurs. Et là, les chemins se séparent. Soit on considère que cette pierre, c'est le Christ, ou est-ce que cette pierre serait éventuellement l'apôtre Pierre. Alors, à partir de ce moment-là, dans toute l'histoire de l'Église, on a eu des conceptions différentes. Nous savons aujourd'hui, et je ne le dis pas du tout dans un sens polémique, mais peut-être pour notre compréhension, l'Église catholique défend la première interprétation. Et les papes seront les successeurs apostoliques de Pierre à Rome. On ne sait pas très bien à quel moment ces choses-là ont été décidées. En lisant un petit peu les pages d'histoire du Moyen-Âge, c'est difficile à situer. Mais la situation aujourd'hui est la suivante, c'est qu'on considère le pape d'aujourd'hui ou les papes précédents comme les représentants de l'apôtre Pierre. On voit qu'il y a eu là tout un glissement. Et d'autres compréhensions ont pris place et sont encore valables aujourd'hui. Pour les églises d'Orient et les églises issues de la Réforme, malgré leurs structures différentes, c'est vrai qu'on trouve des structures différentes, elles vont se référer à la deuxième interprétation, en croyant que cette parole de Jésus s'adresse à une communauté faite de tous les chrétiens qui vont se succéder au cours des siècles. Alors aujourd'hui, dans cette autre compréhension ou autre interprétation qui est celle de l'Église catholique, nous avons différentes structures. Nous avons des églises qui ont comme structure une approche apostolique, une approche synodale, une approche congrégationaliste. Peut-être que vous direz, mais où sommes-nous, nous? Alors je dirais que les apostoliques, il faut penser à l'Église anglicane, dont nous connaissons un petit peu l'existence. Beaucoup d'entre nous ont vécu un peu en Angleterre, on a eu l'occasion de participer. Je rappelle que quand même l'évêque de Canterbury est le chef de l'Église anglicane. Quand je parle synodale, de structure synodale, je pense aux églises réformées qui nous entourent, où c'est une délégation, ce sont des délégués qui se réunissent et qui prennent les décisions. Ce qu'on appelle le système synodal. Et puis le système congrégationaliste, c'est là que nous nous situons sans doute en tant qu'Église d'Afrée, où l'Église locale garde une autonomie, un pouvoir de décision, même s'il y a des liens pour des décisions communes. Je dirais qu'on est peut-être en ce moment fédération des églises de l'Afrique entre le congrégationalisme et le système synodal. Voilà, jusqu'ici, Pierre nous apparaît comme quelqu'un d'assez exceptionnel, et pourtant, on découvre chez lui aussi des faiblesses, ce qui nous fait du bien puisque nous découvrons souvent aussi nos faiblesses. Quand Jésus parle de son destin, vous vous souvenez, quand il parlait de sa mort à venir, etc., qu'il préparait les disciples, c'est Jésus qui devra dire une parole extrêmement dure. Elle m'a un peu bouleversé cette parole. En me demandant si parfois, dans mes attitudes, est-ce que si Jésus était à côté de moi, il ne me dirait pas la même chose. Jésus lui dit, « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. » on trouve Pierre, je ne sais pas dans quel état il était après avoir entendu ces paroles. Je pense qu'il était pas mal choqué. Et puis, un peu plus loin, on découvre Pierre qui fait une déclaration de fidélité après le dernier repas de la Pâque, où vous pouvez imaginer un peu l'ambiance. Jésus essaye de transmettre ce message difficile. Devant lui, il y a la souffrance, devant lui, il y a la mort et la croix. Et puis Pierre, de nouveau, le déterminé, l'enthousiasme dit « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Je pense que vous vous souvenez de cette parole. C'est étonnant de la part d'un homme comme Pierre. Et pourtant, nous le retrouvons un petit peu plus loin. Après l'arrestation de Jésus, il est dans la cour du Sanhédrin, vous vous souvenez de cette histoire. Et là, il fait un plongeon étonnant. Je dois dire, moi-même aujourd'hui, j'ai un peu de peine à comprendre ce volte-face où il dit « Je ne connais pas l'homme dont tu m'as parlé, dont vous m'avez parlé. » Il y a plusieurs versions suivant le récit qui est fait par les évangiles. Mais ce qu'il y a de très curieux, c'est que Jésus l'avait averti de cette chute qui risquait de venir en lui disant « Quand le coq aura chanté trois fois, tu me reniras. » C'est comme si Pierre n'avait pas entendu. Et puis quelques heures plus tard, on est dans la réalité des faits. Pierre, même avec imprécation, même avec des mots très forts, renie son appartenance à Jésus-Christ. Donc, cette période après la croix est une période difficile, une période marquée par les doutes. Plusieurs apparitions de Jésus ressuscitées pour convaincre les disciples. On en a plusieurs. Et puis Pierre se rend lui-même au tombeau, il en reviendra étonné. On ne sent pas chez Pierre le même enthousiasme qu'il avait auparavant. Et puis selon l'évangile de Jean, Pierre rentre le premier dans le tombeau, mais repart avec un certain scepticisme. Pierre porte encore en lui l'expérience traumatisante de son reniement lors du procès de Jésus. Et puis, en lisant l'évangile de Jean en particulier, c'est lui qui prend l'initiative de retourner à la pêche sur le lac de Tibériade. Cette décision témoigne de son malaise intérieur. Et aussi celle des disciples mentionnés. Ils sont pas tous là. Je pense que c'est surtout les pêcheurs qui étaient là. Ils sont 7 sur les 11 qui restaient. Peut-être que les autres ont fait autre chose. Le texte ne nous dit rien. Et c'est là que nous allons le retrouver par une lecture qui nous amènera heureusement à une réhabilitation de Pierre avec aussi un message qui s'adresse à chacun d'entre nous. Et je dirais à Elisabeth de bien vouloir nous lire le récit de cette rencontre au bord du lac.
Alors, dans l'évangile de Jean, chapitre 21, les versets 1 à 19. Quelque temps après, Jésus apparut de nouveau à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Voici comment il leur apparut. Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais à la pêche. » Ils lui dirent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent donc et montèrent dans la barque. Mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Quand il commença à faire jour, Jésus parut au bord de l'eau, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit alors, « Avez-vous pris du poisson, mes enfants ?»« Non, lui répondirent-ils. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous en trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et ils ne pouvaient plus le retirer de l'eau tant il était plein de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit ces mots, « C'est le Seigneur !», il mit son vêtement, car il s'était déshabillé, et se jeta à l'eau. Les autres disciples revinrent en barque, en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez, mangez !» Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» car ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur partagea. Il leur donna aussi du poisson. C'était la troisième fois que Jésus apparaissait à ses disciples depuis qu'il avait passé de la mort à la vie. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux qui ne m'aiment ?»« Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » ?»« Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Puis il lui dit une troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. Je te le déclare, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre te mettra ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas aller. » Par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et rendre gloire à Dieu. Puis Jésus lui dit, « Suis-moi. »
Ce récit est un récit relativement facile à suivre. Nous trouvons probablement dans ce chapitre 21 de l'évangile de Jean, juste avant l'ascension que nous venons de célébrer au cours de cette semaine, et peut-être un peu, oui, avant la Pentecôte. On est en plein dans le contexte de l'époque. Donc il s'est passé 40 jours depuis la mort de Jésus jusqu'à son enlèvement. Le texte de Jean nous parle de trois apparitions. À mon sens, il y en a eu plus parce qu'il n'est pas question des apparitions un peu individuelles. Sans doute qu'il y a eu trois grandes apparitions pour les disciples. Mais il n'est pas question de l'apparition sur le chemin de Damas, sur le chemin d'Emmaüs, pardon, ou bien l'apparition à Marie. Le texte n'en parle pas. Mais l'ambiance, comme j'essaie de le dire, elle n'était pas au beau fixe. Je ne sais pas si on arrive à comprendre cette ambiance difficile, ces disciples qui étaient enthousiastes, qui suivaient Jésus, mais au moment où Jésus disparaît, il y a comme une sorte un vent de panique. Et la compréhension des disciples est très courte, puisqu'ils ne croient que ce qu'ils voient. La preuve, c'est l'histoire de Thomas qui dit, « Mais quand j'aurai vu, ou j'aurai touché, ben je croirai. » Ils ont beaucoup de peine à dépasser ce qu'ils sont capables. Ils ont beaucoup de difficultés à aller au-delà de ce qui est visible, au-delà de ce qui est rationnel. Et c'est aussi quelque chose qui nous caractérise, peut-être plus spécialement la génération actuelle. Donc ils sont là au bord de... Ils ont décidé de retourner en arrière, et c'est assez curieux cette réaction de repartir à la pêche. C'est comme si rien ne s'était passé avant. Est-ce que c'était un peu le ras-le-bol? Est-ce que c'était un peu le découragement? On ne sait pas très bien pourquoi. Mais il se passe une chose assez extraordinaire, c'est le Seigneur qui les attend. Et moi j'aime beaucoup ce tableau d'un Christ qui est sur le rivage, qui a préparé de quoi rassasier ses disciples. Il est question d'un brasier, de pain, de poisson. Et puis, il y a cette interpellation à nouveau aux disciples, avec une question un peu insidieuse. Il leur dit, mais est-ce que vous avez pris quelque chose? Et puis les disciples, c'est un peu la suite du découragement, ils disent, on a pêché toute la nuit, mais on n'a rien pris. Vous voyez, il y a un peu cette ambiance de doute, de confusion, on ne sait pas très bien où on en est, on n'est pas très sûr non plus de celui qui les interpelle sur le rivage, il faudra un peu de temps pour qu'ils comprennent que ce soit le Christ. Et puis finalement un ordre est donné, l'ordre c'est jeter le filet à tel endroit, à droite, le filet se remplit, il y a même 150 poissons, il y a tellement de butins qu'ils ont de la peine à le traîner à bord. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que Jésus leur dit, prenez de votre poisson pour le mettre avec celui qui était sur le brasier. Et puis, on est là dans un repas convivial. On ne sait pas très bien ce qui se dit pendant ce repas. On peut imaginer, est-ce qu'il y avait de la timidité, est-ce qu'il y avait un peu de honte, on ne sait pas, on peut imaginer. Mais au cours de ce repas, il y a eu une chose très précise, c'est cet entretien avec Pierre. Et ce Pierre dont nous avons suivi un petit peu le parcours tout à l'heure, on ne sait pas comment il était ce Pierre. J'ai l'impression qu'il était un peu mal dans sa peau. Et puis, il est intéressant de voir comment le Seigneur le rétablit. J'étais impressionné parce qu'il ne lui a jamais posé une question qui l'aurait culpabilisé. Il n'a jamais été question, pourquoi est-ce que tu as dit ça, pourquoi est-ce que tu as fait cela, etc. C'est ce que nous faisons en général quand on essaye de régler certaines de nos difficultés. On insiste sur la faute et on aimerait bien que la personne en face de nous reconnaisse sa faute, nous dise, oui, c'est vrai, j'ai commis une erreur. Il n'est pas question de ça. Il est question d'amour, il est question de relation. Par trois fois, et là il y a sans doute une correspondance avec les trois reniements de Pierre, ça on peut le supposer, mais Jésus a uniquement utilisé le langage de l'amour, sans peser sur la culpabilité de Pierre. Et ça a donné à Pierre un espace extraordinaire. Pierre a pu dire avec beaucoup d'humilité, même avec une certaine tristesse, parce qu'il semblait que le Seigneur a insisté un peu, il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et dans le texte grec, je ne vais pas vous donner une leçon de grec, mais il y a une modification du terme grec utilisé qui va d'un amour simple à un amour profond, avec les termes agapé et philos. Et on voit très bien que c'est à travers l'amour, à travers l'insistance de l'amour de Jésus, que Pierre sera rétabli, mandaté, confiance renouvelée. Et ça, c'est une autre partie de la vie de Pierre, dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais ce sera peut-être l'occasion d'en parler. Pierre a accompli beaucoup de choses qui nous sont relatées par le livre des Actes en particulier. En tout cas, il y a eu un changement fondamental, il y a eu une réhabilitation fondamentale et une confiance renouvelée fondamentale. Alors ça, c'est un peu ce récit de Jean 21 dont on ne parle pas très très souvent. Et je me suis posé la question si ce texte a quelque chose à nous dire à nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va retenir de ce texte, de ce parcours de Pierre aujourd'hui? Alors j'ai 6 suggestions que je vous laisse en conclusion de cette méditation. La première leçon qui me semble être se dégager de cette histoire du pique-nique au bord du lac de Tibériade, c'est que dans une période de doute et d'incertitude, et c'est peut-être le cas pour certains d'entre nous, le Seigneur est là, et il est là avec quoi nous rassasier. Le Seigneur est là, présent, il est là avec ce qu'il faut pour renouveler nos forces. C'était l'image du poisson, du brasier et des pains. Une deuxième chose qui m'apparaît de ce récit, c'est le danger des initiatives sans approbation du Seigneur. C'est ce qui s'est passé pour les disciples. Ils sont partis à la pêche parce que peut-être qu'ils avaient un peu le ras-le-bol, c'était leur habitude, le Seigneur n'était pas là, on ne sait pas s'il est vraiment ressuscité, le bruit court, et ils prennent une initiative, c'est celle d'aller pêcher. Donc, sans l'approbation du Seigneur, quelque part. Et la chose intéressante du récit, c'est que le Seigneur rattrape et transforme la situation négative ou l'issue où nous sommes parvenus ou où nous sommes coincés. C'est intéressant. Jésus rattrape toute situation où nous sommes placés, un peu par initiative personnelle, par orgueil, et que sais-je. Mais Jésus est capable de rattraper cette situation. Et c'est très présent par le fait qu'il leur demande de jeter le filet à droite, et puis il y a eu le succès de la pêche. Et puis, il y a aussi dans ce message quelque chose d'intéressant au point de vue de la collaboration. Il y avait le feu, le brasier, le pain, les poissons, mais Jésus a utilisé les poissons que les disciples avaient pris, sur son ordre, bien entendu. Et il y a là une espèce de collaboration, une espèce de mixage, et le Seigneur utilisera toujours, toujours ce que nous pourrons apporter. Et je fais allusion ici à cette fameuse phrase, nous n'avons que deux cinq pains et deux poissons, vous vous souvenez, la multiplication des pains, le Seigneur utilise toujours, honore toujours ce que nous pouvons apporter. Et puis, une des dernières choses, c'est que il y a toujours une réhabilitation possible. Il n'y avait pas de revendication, je me répète, pas de justification. La médiation, la réhabilitation était basée sur l'amour. Et là, nous avons tous beaucoup à apprendre. Parce que quand nous avons un conflit avec quelqu'un, en général, nous insistons sur la justification, sur la revendication. Et le nerf, le secret de la réhabilitation, c'est le langage d'amour. C'est exactement ce que Jésus démontre lorsqu'il rétablit Pierre dans sa position de leader, d'un des leaders de l'Église. Et puis, on comprend très bien que, après cette entrevue, il y a eu quelque chose qui s'est passé chez Pierre de très profond. La communion, communion intime. Et lorsqu'il y a communion intime avec Dieu, il y a toujours un mandat. Et Pierre a été mandaté, et il a honoré ce mandat, nous aurons une fois ou l'autre la preuve de vous en parler, il a honoré ce mandat reçu là au bord du lac de Tibériade. Puisque Dieu, Dieu a utilisé Pierre comme la clé pour ouvrir l'évangile pour nous, pour le monde entier. Alors que ces quelques réflexions autour de cette histoire du repas, du pique-nique au bord du lac de Tibériade puissent aussi nous encourager et nous stimuler pour aller de l'avant. Amen.